Ça s'appelle le Dark Web. C'est comme le côté obscur de l'Internet. Hein, vous connaissez la guerre des étoiles, le côté obscur de la force. Ben, il y a un côté obscur d'Internet qui s'appelle donc le Dark Web. Et là-dessus, vous pouvez acheter des armes, vous pouvez acheter de la drogue, vous pouvez acheter, par exemple, un organe vital. Mettons, vos reins fonctionnent plus, puis vous cherchez quelqu'un qui pourrait vous donner les siens. Enfin, peut-être pas les deux, mais mettons un des deux, pour un prix, évidemment, à négocier. Écoutez, c'est quand même incroyable ce que je vous raconte là, et ça existe bel et bien. Et pour comprendre comment ça marche, on va aller rejoindre Geneviève Lajeunesse, qui est animatrice du podcast Chien de garde et qui est directrice des opérations à Crypto-Québec. Bonjour Geneviève.
Bonjour Bernard.
Alors, évidemment, c'est cette histoire-là qu'on a vu passer, là, une bonne mère de famille sans histoire qui a été arrêtée en France parce qu'elle dirigeait un forum, le forum Black Hand, sur lequel on pouvait acheter des faux papiers, des données bancaires volées, des drogues, des armes et tout le reste. C'est quoi le Dark Web?
En fait, le Dark Web, c'est une partie de l'Internet à laquelle on peut pas accéder avec notre navigateur habituel. Donc, on ne peut pas aller là-dessus avec Chrome, Internet Explorer. Ça prend un logiciel spécial pour se connecter. Puis, dans ce cas-ci, il y a toutes sortes de choses qui se passent par le Dark Web, mais on parle vraiment c'est comme des pages Web, mais qui ne fonctionnent pas avec votre navigateur Web habituel.
Okay.
Ce qu'il y a de particulier de ce forum-là, en particulier, c'est sur un réseau qu'on appelle Tor, T-O-R. Puis ça permet de se connecter sans divulguer de où on se connecte, donc sans divulguer qui on est. Puis ça rend aussi la localisation des serveurs difficile à trouver. Donc, on a un service de police, on veut savoir c'est où cette histoire de serveur-là. C'est plus difficile à trouver. Donc, ça va ajouter des couches d'obfuscation. Ça va brouiller les pistes un petit peu.
OK. Commençons
Mais
par le commencement.
C'est comme des pages web.
Bon, alors, commençons par le commencement. D'abord, le fameux Tor, T-O-R, là, dont j'ai besoin pour avoir accès au Dark Web. Où est-ce que je peux me procurer ça, moi?
On va sur le site Tor Project, T-O-R-P-R-O-J-E-C-T.org.
Oui.
Là, les explications sont très claires. C'est un logiciel qui est gratuit. C'est pas un logiciel qui est dangereux pour votre ordinateur. C'est un logiciel dont le code source est libre, donc tout le monde qui le télécharge peut voir comment c'est fait. Puis si vous connaissez un programmeur qui est habile, il va pouvoir vous dire bon ben effectivement il y a pas de virus là-dedans.
Donc,
on le télécharge tout simplement, on le démarre, puis quand on le démarre, ça va nous donner une adresse sur le réseau qui n'est pas votre adresse IP de chez vous, qui va être une adresse différente. Et puis là, ça va vous permettre d'accéder à ces sites-là. C'est un peu comme utiliser le web du passé, dans le sens qu'il y a beaucoup de fonctionnalités auxquelles on est habitué qui sont bloquées. Donc, tout ce qui permet d'avoir des publicités interactives, bon, tout ça, à la base, c'est bloqué parce que c'est aussi des portes d'entrée pour installer des logiciels qui ne seraient pas sécuritaires. Parce que c'est un navigateur qui est pensé pour être plus sécuritaire que nos navigateurs habituels. Parce que, ben, vous en doutez bien, si on fait des choses qui sont sensibles, puis là, je veux pas dire nécessairement illégales, hein, parce qu'il y a des bonnes raisons d'utiliser le navigateur Tor, on veut être le plus protégé possible. Donc, on essaie de fermer les fenêtres d'emblée, là, plutôt que d'ouvrir des portes à chaque fois pour qu'il y ait des problèmes.
OK, mais là, mettons que je me procure ce logiciel, il me donne une adresse sur le réseau, j'accède au Dark Web. Là, il y a quoi? Il y a comme un Google du Dark Web, puis là, je dis, mettons, Bazooka. Puis là, il y a des vendeurs de bazooka qui vont popper puis qui vont dire « Ah ben, coucou Bernard, moi je suis au Tadjikistan et j'aurai une belle douzaine de bazooka à te vendre, beau bon pas cher. »
Ça serait la version dans un film d'action. En fait, quand vous allez ouvrir le navigateur Tor pour la première fois, vous allez voir une page vide qui va vous dire « Vous êtes connecté à Tor, faites attention à ce que vous faites. » Pour accéder au site, il faut connaître les adresses. Et là, c'est beaucoup plus compliqué que de trouver une adresse, site pour les armes.com. Il existe des répertoires, des adresses, des sites sur le Dark Web. Il faut les trouver et il faut les mettre en mémoire et y retourner. Et vous dites très bien que ce ne sont pas des pignons sur rue qui restent là très, très longtemps. Ça peut arriver qu'un site se fasse saisir. Des fois aussi, bon, les opérateurs de sites vont partir dans la nature avec un petit pactole qu'ils auront extorqué à leurs clients. Donc, ce ne sont pas des adresses qui sont nécessairement fixes dans le temps. Ce sont des adresses qui sont longues, qui ne sont pas très mnémoniques non plus. Là, vous allez voir une suite de caractères .onion, .onion. Vous allez trouver comme ça. On peut trouver de ces adresses-là en étant dans le web régulier, puis en cherchant, puis on va nous, je cherche le site Onion pour tel truc. Mais voilà, il y a des wikis qui vont lister des adresses de sites. Est-ce que c'est fiable? Plus ou moins. Voilà.
OK, donc, mais Geneviève, l'essentiel, là, c'est qu'en bout de ligne, si je travaille un peu, je vais finir par trouver quelqu'un qui serait prêt à me vendre des armes ou qui serait prêt à me vendre de la drogue ou qui serait prêt à me vendre un faux passeport ou des faux papiers, là.
Oui, admettons que vous êtes moyennement débrouillard, vous allez trouver un forum sur lequel on va vendre la chose illicite que vous vouliez acheter. Et puis là, ben, vous allez pouvoir échanger des messages avec la personne qui vend ces choses illicites-là. Et là, après, c'est à vous de vous faire une tête. Est-ce que cette personne-là a vraiment dans les mains la marchandise qu'elle prétend vendre ou pas? Est-ce que le site sur lequel on fait affaire est digne de confiance aussi? Comme dans cette histoire-là, la dame qui a été arrêtée, le site gardait un pourcentage des transactions. Oh, ça peut vouloir dire que des fois, ils peuvent garder un pourcentage des transactions, rien est livré, puis ils ferment, puis vous retrouvez pas d'armes, vous retrouvez fiché, puis vous retrouvez moins riche. mais voilà, donc c'est un peu, ben c'est ça. Imaginez que vous faites affaire avec quelqu'un de louche au marché aux puces, c'est un peu la même chose.
Mais la police, là,
oui.
Je veux dire, ils doivent être très présents sur le dark web, ils doivent essayer justement d'intercepter ou d'infiltrer ces réseaux-là. Je veux dire, ils sont là, c'est disponible. Il s'agit juste d'être plus intelligents que ceux qu'ils ont mis en place et puis bingo, non?
Absolument. C'est l'équivalent de la place publique à Internet. Donc là, les policiers, ils savent bien que c'est pas en plein milieu de la place que les transactions de drogue se font. Ils vont chercher les petits coins sombres où est-ce que les vendeurs se tiennent. C'est la même chose. Ils savent où les vendeurs se tiennent, les vendeurs ont pignon sur rue. Donc c'est bien certain que oui, ils sont présents sur ces sites-là, ils effectuent une surveillance de ces sites-là, puis ils sont patients. Ça, faut pas l'oublier. Hein. C'est alors que vous venez chercher votre dose une fois par X temps, les policiers, eux autres, c'est leur job 40 heures par semaine d'être patient et de surveiller ce qui se passe. Donc, oui.
Donc, on peut penser que c'est très utilisé par les pédophiles, le dark web.
Le dark web est utilisé par les pédophiles, effectivement, puis il est surveillé par les policiers aussi pour cette raison-là. Donc oui, parce que ça permet aux gens d'avoir un pseudonymat, un relatif anonymat. Et en connaissant bien son affaire, on peut réussir à être pas mal anonyme. Mais c'est pas parfait, hein. Ça, il faut le savoir, là, c'est pas parfait.
Est-ce que tu es déjà allé là-dessus, Geneviève de la Jeunesse? Est-ce que tu es déjà allé sur le dark web?
J'y vais à peu près tous les jours, en fait. C'est y a pas que des utilisations illicites de la chose, il y a des forums de discussion qui sont intéressants, on voit des points de vue qui sont différents. J'utilise des messageries qui passent par le dark web, donc à chaque jour, j'utilise des services qui en ont besoin.
C'est quoi l'avantage? Parlez-moi, vous me dites qu'il n'y a pas juste des aspects négatifs, c'est quoi les aspects positifs? Mettons, le côté positif du dark web, c'est quoi?
Ben, par exemple, vous savez, en Catalogne, il y a un mouvement indépendantiste qui se trouve là. Les indépendantistes en Catalogne se sont fait, ils ont été victimes de beaucoup de répression par les services de renseignement espagnols puis par les forces de l'ordre espagnoles. Donc, pour être capable d'échanger, ils ont besoin d'avoir un forum qui est moins facilement identifiable, moins facilement saisissable par la police. Donc, ils utilisent le dark web pour pouvoir discuter entre eux. Donc, ça, c'est une des utilisations qui vient à l'esprit vraiment rapidement. Pour tout ce qui est échange de fichiers avec des sources, pour des sources journalistiques, c'est très utile. Donc, oui, non, il y a vraiment... au quotidien, je m'en sers.
Est-ce que tu as vu des choses parfois passer qui t'ont fait dresser les cheveux sur la tête?
Absolument, absolument. Puis, je dirais que comme quand je vois des choses qui me font dresser les cheveux sur la tête sur le web de surface ou sur les réseaux sociaux, je les signale, je pense que c'est ça qu'il faut faire.
À la police?
Ben oui.
Qu'est-ce que tu avais vu?
Ben, c'était des images de pédopornographie, puis à ce moment-là, il y a CyberAide au Canada qui sont très, très... c'est un bon guichet unique là, pour signaler lorsqu'on remarque des images de ce type-là. Parce qu'eux, bon, ils vont faire vraiment le lien avec toutes les forces de l'ordre qui sont concernées par ça. Puis c'est pas évident sur le dark web, mais on n'a pas idée de la localisation de la chose. Interpol, par exemple, va faire une bonne veille sur le dark web. Puis quand ils trouvent des images qui sont incapables de localiser, ils font appel à la population pour les aider à localiser. Donc, ça aide aussi. Là.
Mmh. Oui, mais c'est assez fascinant. Qui a inventé ça en terminant? Puis qui, ça appartient à qui? Est-ce qu'il y a... Y a-t-il un propriétaire du Dark Web? D'où ça sort, cette affaire-là?
Il n'y a pas un propriétaire du Dark Web. Tor, en particulier, c'est une technologie qui a été développée au sein de l'armée américaine, au sein de la marine américaine, parce que les agents secrets avaient besoin de se parler entre eux, puis ils avaient besoin de ne pas être tracés, de ne pas être identifiés. Donc, d'ailleurs, ça sert aussi à ces fins-là, pour être capable d'échanger des formations aux différentes parties qui ne devraient pas se parler, mais qui ont besoin de se parler. Qui en profite d'habitude? Il y a beaucoup de publicité sur le Dark Web. Hein? Internet, à qui appartient Internet? Le Dark Web, il faut le défendre, même si on trouve toutes sortes de choses qui sont scabreuses, qui donnent froid dans le dos, parce que c'est aussi souvent le dernier bastion qui reste debout quand tous les autres sites Internet se font saisir puis quand la démocratie est mise à mal. Donc, c'est pas évident, mais c'est un peu comme une place publique. On y voit toutes sortes de choses, mais on veut conserver nos places publiques.
Intéressant, intéressant. Geneviève Lajeunesse, animatrice du podcast Chien de garde et directrice des opérations à Crypto-Québec. Merci, Geneviève.
Merci, Bernard.